Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Voici donc le replay du live Twitch qui a eu lieu avant-hier soir. Sachez que pendant tout le mois de septembre, on se retrouve tous les dimanches, les mardis et les jeudis à 21h sur ma chaîne Twitch. Twitch, si vous ne le connaissez pas, c'est une plateforme qui permet de pouvoir diffuser en direct ma pomme, par exemple. Et donc, surtout, n'hésitez pas à venir découvrir cette plateforme, à venir aussi découvrir le Discord, parce que ça se passe par Discord pour venir discuter tous ensemble. N'hésitez pas aussi à créer un compte sur Twitch et de pouvoir venir, si vous ne voulez pas venir parler, vous pouvez également venir interagir dans le chat. Si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir venir pendant le live, vous pouvez avoir accès à l'intégralité de ces lives en replay, en audio, dans mes podcasts. Donc le dimanche, on va parler d'argent et donc ce sera dans Histoire d'argent. Le mardi, on parlera de parentalité, de paternité, de maternité, donc ce sera dans Histoire de daron. Et le jeudi, on parlera de masculinité et ça sera donc dans Histoire de mec. Et à chaque fois, ce sera le surlendemain après la diffusion. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Je vous laisse en compagnie donc de ce live et je vous souhaite une belle écoute.
Bonsoir. Oh là là, mais quel plaisir. Quel plaisir de vous retrouver la classe. Franchement, le kiff. Trop bien. J'espère que vous avez passé une belle rentrée parce que ce soir, on va parler de rentrée des classes. L'année passée, il y a 2 ans, on avait fait un live sur la rentrée des classes, mais du point de vue des profs, et ça avait été génial. Je ne sais pas si vous aviez écouté ce replay. Attendez, est-ce que je vous retrouve ça Twitch, Fabrice, Florent, rentrée, prof. On avait fait un live spécial prof. C'était trop bien, je me souviens. Et là, je me dis, à vrai dire, j'avais complètement zappé. Enfin, pas zappé que c'était la rentrée des classes, bien sûr. Mais j'avais zappé à quel point c'était un dos, et notamment quand on avait des plus petits enfants, parce que c'est un peu moins un sujet aujourd'hui, moi, quand à l'âge de mes filles qui ont, je vous le rappelle, 17 et 15 ans. Mais c'est vrai que j'ai vu sur le Discord les débats s'animer, etc. Et je me suis dit, waouh, en fait, en vrai, c'est vrai que c'est un del, quoi, quand t'es jeune parent. Donc ouais, on va parler rentrée des classes, on va parler de ce que ça fait d'être un daron ou une daronne, c'est ouvert aujourd'hui, c'est pour tout le monde, pour parler et de vivre cette rentrée des classes pour ses enfants, quand ils sont petits, quand ils sont plus grands, parce qu'en fait c'est exactement la même chose, avant de donner la parole aux gens qui sont déjà dans le chat, hein, parce qu'il y a Jérémy et Chloé, si je ne me trompe pas. Je voudrais vous donner une anecdote, c'est que je viens d'avoir Kim au téléphone, ma fille cadette, et qui me racontait qu'elle avait mis dans la fameuse fiche des métiers, parce que ça, c'est vraiment une galère qu'ils ont eue depuis toujours, en fait, parce que je n'ai pas de métier, quoi. Enfin, je ne sais pas comment le décrire. Moi-même, je ne savais pas le décrire. Donc, à l'époque, quand j'étais chez Mademoiselle, je lui disais, bah, t'as qu'à dire que je suis chef d'entreprise, tu vois. Mais là, aujourd'hui, bon, elle m'a dit, j'ai mis créateur de contenu sur Internet. J'ai dit, ah ouais, pourquoi t'as pas dit que j'étais influenceur comme Léna Situation, quoi. Elle m'a dit parce que le prof, bon, il est un peu vieux, à mon avis, c'est parce que c'est la situation. J'avoue, c'est très possible, voilà. Bon, c'est une petite anecdote, mais sinon, c'est vrai qu'à l'âge de mes filles, même si la rentrée, ça reste toujours un moment qui est important dans l'année, c'est quand même pas du tout la même pression. Quoique, peut-être que Jérémy va nous dire l'inverse. Parce que Jérémy, t'as des grands-enfants, Jérémy.
Oui. Bonjour. Ouais, en effet. Donc, moi, bonjour. donc, moi, j'ai 4 filles. J'ai 4 filles.
Les 4 filles du docteur Jérémy.
C'est grande. Voilà, exactement. Dont la plus petite a 12 ans. Et dont l'aînée a 20 ans maintenant.
Grands-enfants,
étudiante. Voilà. Et L'anecdote que j'ai partagée un peu sur le Discord, c'est que hier j'ai accompagné ma deuxième, ma fille qui est lycéenne, elle a le même âge que Lina, donc elle entre en terminale.
La terminale.
Voilà. Et donc elle est interne. Le lycée est à une heure de route de chez nous, donc c'est un peu tout le, c'est un peu le trajet pour y aller, quoi.
Ouais.
C'est un peu le voyage, donc je l'ai accompagnée pour le premier jour parce qu'il fallait, elle est interne, faut trimballer la literie, tout ça, faut,
ouais.
Faut des bras. Et donc on est arrivé tranquillou, un peu en avance. Et là, en fait, le truc auquel je m'attendais pas trop, c'est qu'elle était assez stressée. En fait, elle était vraiment, elle avait du mal. Alors déjà, elle s'était beaucoup apprêtée. Pour y aller, elle avait passé plein de temps à bien s'habiller, à se faire la super coiffure, les super ongles, elle a même mis des lentilles de couleur.
Des lentilles de couleur,
vraiment,
wow.
Voilà, elle est arrivée vraiment un peu en superstar. Tu vois, t'imagines vraiment, moi je m'imagine en tant que mec, à l'époque j'étais au lycée, tu vois la fille comme ça, tu te dis ok, c'est la star quoi, c'est celle qui arrive pour voilà. Sauf qu'elle c'est pas du tout son caractère, elle est vraiment plus assez timide et assez réservée, et je pense que justement elle met un peu tout dans le, elle essaye à la fois de se faire remarquer et de se masquer derrière derrière tout ça quoi.
Je disais, il y avait une de mes rédacs chez Mademoiselle qui disait que pour elle, le maquillage, c'était sa peinture de guerre. Donc, j'imagine bien cet état d'esprit-là, quoi.
Je pense qu'il y a un peu de ça. Et en fait, quand on est arrivé, il y avait juste quelques personnes qui étaient là et qu'elle connaissait pas. Et là, tout de suite, enfin, elle s'est mise un peu à trembler, quoi. On est resté dans la voiture un moment. Elle voulait pas sortir de la voiture tant qu'il n'y avait pas... au moins quelqu'un à qui s'accrocher, quoi, tu vois, une copine, un truc comme ça. Et en fait, elle avait vraiment... Alors moi, je m'y attendais pas du tout, parce qu'elle y était super bien dans ce lycée. C'est un lycée qui est assez cool, qui est en campagne, donc déjà, Condon, c'est une petite ville dans le Gers, donc déjà, ça craint pas du tout. C'est un lycée de 400 élèves. Elle est dans une filière artistique, donc c'est un lycée d'artistes, que tu vois, ils sont tous internes, c'est assez...
Ça doit être génial à vivre, hein, vraiment.
Voilà, et donc en fait c'est un peu que des gens cool qui sont là-bas, quoi, tu vois. Elle se fait pas emmerder, il y a pas d'histoire et tout, elle s'est vachement épanouie là-bas depuis qu'elle y est. Et donc franchement, moi je m'attendais à ce que ça roule tout seul, et en fait elle a eu peur de se remettre d'oublier comment est-ce que tu fais pour dire bonjour aux gens, enfin pour reprendre le contact. Et moi, en fait, tu vois, je m'y attendais pas du tout à cette histoire. Je pensais qu'elle allait être cool, qu'elle allait arriver à la reine du lycée, tu sais, un peu la star en terminale en plus, quoi. Et voilà, c'était beaucoup plus dur. Bon, après, une fois qu'il y a eu une ou deux amis qui sont arrivés, ça s'est passé bien mieux.
T'as posté une petite vidéo sur le Discord. Elle était très émue, hein. Elle pleurait et tout, quoi. Enfin, elle avait les larmes aux yeux.
Ouais, voilà. Alors, elle était un peu entre le rire et les larmes, quoi. Ouais. C'est parce qu'elle se disait elle-même que
c'était bizarre. De réagir aussi.
Elle tremblait. Ouais. Elle se disait, les gens qui passent à côté, zut, est-ce qu'ils me regardent? Est-ce qu'ils me mettent dans la voiture? Est-ce que je le connais? Qui c'est qui est là et tout ça? Mais après, je me dis, en y réfléchissant bien, je me dis que moi aussi, en fait, j'aurais réagi comme ça si je me remets à sa place, et même récemment, il y a un truc que je me, enfin, en gros, c'est un peu de l'anxiété sociale, et la comparaison que j'ai, c'est, tu sais, quand c'est l'été, t'es allé à la piscine, c'était super cool. Et à un moment donné, tu sors, tu vas sur le côté, tu vas sur ton transat, tu te réchauffes bien et tout. Au bout d'un moment, t'as bien chaud. Et il y a vraiment le moment où tu dis, bon, ben là, on va peut-être refaire un tour dans la piscine. Et là, le moment où il va falloir, tu te dis, eh merde, il va falloir que je remette le pied dedans, que je me remette à température, ça va me saisir là pendant les premières secondes et un peu la flemme, quoi, tu vois, un peu. Et alors que tu sais très bien que tu vas t'éclater une fois que tu seras de retour dans la piscine, mais que le moment où il faut s'y mettre, en fait, ça, t'as le recul, t'as la flemme, tu te dis, oh, franchement, j'y vais pas. Et c'était un peu ça.
Et puis j'imagine après 2 mois, enfin c'est le fameux débat des longues vacances d'été en France qui revient quasiment tous les étés, etc. Et c'est vrai que ça fait 2 mois qu'elle est pas revenue et qu'elle était chez vous, j'imagine dans un environnement, dans le cocon familial, etc. L'internat, même si c'est avec des gens cool, en fait t'es quand même pas chez toi, quoi. Tu vois, c'est, faut quand même quitter papa maman, c'est chiant, quoi.
Mais il y a un truc en plus, c'est que tu te dis, les jeunes maintenant, ils sont super connectés. Enfin, tu vois, même, je pense que ils ont les groupes de classe sur les réseaux et tout. Donc, je veux dire, même pendant les 2 mois, est-ce qu'ils sont vraiment déconnectés? Et t'as quand même le contact avec des amis, voire même des camarades, parce que dans le groupe, t'es pas forcément copain avec tout le monde. Enfin, je sais pas. Tu imagines, eux, en fait, ils sont tellement connectés avec tout le monde qu'en fait, ça va être comme s'ils s'étaient pas quittés, quoi. Alors que, eh ben, finalement.
Et toi, Jérémy, comment t'as vécu? Parce que moi, je me souviens que la première fois que je suis allé amener ma fille à l'école, elle a pleuré. Bon, comme très souvent les petits. En plus, elle est allée à 2 ans parce qu'elle avait trop envie d'aller à l'école. Ah, là. On avait eu cette chance de pouvoir la mettre à l'école à 2 ans. Elle était trop motivée. Mais bon, la rentrée a été dure. Et je me souviens que j'avais le cœur serré de ouf. Je crois que j'ai pleuré la première fois, mais je me souviens plus trop. Toi, comment tu réagis quand tu vois ta grande fille comme ça, qui a les larmes aux yeux et qui est ultra émotive? Ça te fait quoi?
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Moi, j'étais là pour la rassurer. En fait, j'étais en mode ça va aller. Je suis sorti, je suis resté un peu avec elle. Quand il commençait à y avoir des amis, je me suis un peu éloigné. Mais sinon, d'être un peu la présence rassurante, quoi.
Ouais.
Sur le moment, après, moi, je me suis dit tout de suite, ça va aller, ça va passer. C'est un mauvais moment, c'est un moment un peu de stress. Mais après, j'ai essayé de sortir des vannes de daron pour la faire rigoler un peu, et puis.
Tire sur mon doigt.
Et bien. Et puis voilà.
Ok.
Mais après, de manière générale, nous, on n'a jamais trop été dans la crainte de la rentrée. Enfin, ça s'est plutôt bien passé avec les filles à travers le temps. On était plutôt détendu par rapport à.
Même quand elles étaient toutes petites.
Par rapport à ça. Ouais, j'ai pas des souvenirs de gros pleurs et tout. Même la première, elle était contente d'y aller, il n'y a pas eu trop de pleurs. Et à partir de la deuxième, il y avait l'aîné, tu vois, à chaque fois, tu avais l'aîné qui était passé par là. Une fois que tu arrives à la troisième ou à la quatrième, de toute façon, toi, tu sais, tu connais tout par cœur. Donc, ils sont pas stressés. Ils ont accompagné, avant même d'être à l'école, ils ont accompagné les grandes sœurs, etc. Donc, on n'est pas forcément une famille où on met un stress de fou sur la rentrée. Peut-être qu'on met du stress à d'autres moments, peut-être plus sur les examens ou des trucs comme ça, tu vois. Mais en gros, pour la peine, d'autant plus, tu vois, pour la peine, j'avais pas anticipé ça comme étant une rentrée, tu vois, vraiment stressante. Ouais. Pas comme, ok, tu fais le grand saut. La première fois, tu arrives dans un nouveau lycée que tu connais pas. Tu arrives, après, tu arrives dans les études supérieures, dans une ville que tu connais pas, etc. Tout ça, tu l'anticipes, tu dis, bon, très bien, je vais être à ses côtés et tout. Là, c'est la troisième année qui est liée et ça se passe super bien jusque là. Alors, j'avais pas anticipé, quoi.
C'était un peu pris de court. Tu l'as eu au téléphone depuis ou ça va?
Voilà. Ouais, on l'a eu sur le chat, ça s'est bien passé. Moi-même, déjà, après, je l'ai mise dans sa chambre, elle s'est retrouvée en chambre avec sa meilleure amie et tout. Enfin, j'ai pas.
Ouais, c'est le petit stress. C'est le petit stress de la rentrée, en fait, hein, tout simplement.
Ouais.
Ok. Bah, écoute, merci pour ton témoignage, Jérémy.
Voilà.
Et avec les plus petits, tout ça va. T'es plus tranquille de ce fait-là. Enfin, de toute façon, quand t'as quatre enfants, quoi, tu vois, au bout d'un moment, ça finit par devenir la routine, quoi.
Bah, c'est sûr que quand t'arrives au dernier, bah d'un côté, il y a un truc. Moi, je suis l'aîné de quatre enfants, et tu essuies les plâtres quand t'es le premier.
Toujours.
Parce que les parents, t'arrives au collège, ils savent pas comment ça marche le collège. T'arrives au lycée, ils savent pas comment ça marche le lycée et tout. T'as plus la pression parce que c'est la première fois que quelqu'un va rentrer en sixième. Et c'est sûr que donc sans doute qu'on a été pareil avec la grande. Après, quand t'arrives à la petite dernière, c'est sûr que t'es plus cool. Alors, d'un côté, ça peut être vu comme un manque d'attention, mais d'un autre côté, c'est aussi que tu mets moins de stress et puis ça peut faire aussi des enfants qui sont moins stressés.
J'avoue. Comme quoi, faites quatre enfants et comme ça, plus ça ira, plus vous serez détendu et vous détendrez tout le monde.
C'est la recette magique. Je ne sais pas si c'est la meilleure recette pour être détendu tout le temps, en fait.
Mais Lina, t'es dans le coin, toi ?
Ouais, je suis là.
Salut.
Salut.
Ça va ?
Ouais, ça va. Bah, la rentrée aussi, Et en tant que prof et en tant que maman aussi.
Toi, t'as la vraiment.
Et aussi d'une fille en terminale.
Voilà. Bah, ceci dit, ma fille a eu sa rentrée là ce matin en terminale. Elle m'a dit ils l'ont fait venir à 8h. Apparemment à 9h c'était terminé et elle était là. Putain, ils nous ont cassé les couilles déjà avec Parcoursup. Franchement, c'était trop tôt. Pour ce que c'était, j'étais ah bon bah très bien, ça commence bien ton année cool.
Bah c'est ça en fait. Le truc c'est que en fait le stress il se situe pas au même niveau. Je pense que il déconnecte vraiment pendant l'été en fait. Il déconnecte pas avec les copains, mais c'est autre chose. C'est pas quand même c'est pas du tout la même chose qu'à l'école. Et en fait il coupe quand même vraiment de l'école. Et donc, il y a tout le stress. Et le stress, il ne se situe pas au même niveau. Le stress, là, en terminale, bah voilà quoi. Le stress de la dernière année avant le bac, effectivement, de savoir qu'est-ce qu'on fait après le bac, etc. Et ce n'est pas le même stress que les loulous que je vois au collège, qui veulent savoir qui ils vont avoir comme prof, j'ai un petit garçon qui a 9 ans. Et qui lui va me raconter son maître et sa nouvelle poésie et puis ce qu'il va retrouver comme copain, etc. Et du coup c'est rigolo aussi parce que on sent que c'est toujours un stress, mais c'est pas le même quoi. Le stress il évolue un peu, c'est rigolo.
Non, puis effectivement il y a donc Jérémy qui dit Parcoursup gros stress d'éplucher les brochures des écoles, etc. Enfin, je t'avoue que ça c'est pas un truc dont j'ai très hâte, quoi, tu vois.
C'est clair. Effectivement, c'est un truc qui est présent. Mais je pense que c'était présent dès l'année dernière parce qu'en vrai, le stress, ils le remettent déjà dès la première, quoi. Ouais. Enfin, dès la première, ils sont quand même en réflexion dessus. Et voilà. Et perso, j'ai senti, moi, chez ma fille, que ça allait un peu mieux depuis qu'elle sait ce qu'elle veut faire.
Ah.
En fait, elle était vachement en stress. Là, maintenant qu'elle sait que, OK, je veux faire du droit, machin, bah, OK. En fait, elle a trouvé, et elle hésitait avec un truc dans la mode et tout ça, donc rien à voir.
Ah
et
oui.
En même temps, mais c'est tellement dur.
Tu lui as dit, fais pas de droit,
malheureuse.
C'est
tellement dur de savoir, même le domaine. Et maintenant, on se dit, mais même, enfin, c'est tellement compliqué de savoir. Dans quoi on va bosser. Et effectivement, il y a de toute façon, il y a même plein de métiers qui existent même pas encore aujourd'hui. et qui vont exister plus tard. Et donc, en fait, juste de savoir au moins le domaine, mais déjà ça, en fait, il y a un côté hyper stressant, quoi.
Big up à tous les community managers du début, quoi, tu vois, qui, ces gens-là n'ont jamais été formés au community management, tu vois. Aujourd'hui, il y a des écoles, mais c'est vrai que il y a toujours des, toujours des métiers qui s'inventent au fil de l'eau, quoi. Et alors?
Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, cela dit, je pense que maintenant, les profs ont un peu évolué quand même sur le truc. Ça, je pense qu'ils sont plus au courant, ou en tout cas, ils dirigent mieux vers, vers justement des journées portes ouvertes où ils font intervenir, enfin je sais pas, hein, dans le, j'ai vu ça quand même pas mal autour de moi maintenant.
Ouais.
De ils font quand même appel à des intervenants extérieurs. Il y a, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de choses sur le sujet, ou c'est juste parce que j'ai des enfants de cet âge-là et que du coup,
ouais, ça te...
je me rends compte que
t'as un biais cognitif.
Bah non, je sais pas pour toi, je sais pas ta fille et toi si elle sait ce qu'elle veut faire après, si elle sait.
Non, pas trop. Et je crois que elle fantasme un peu le fait de d'aller faire Sciences Po Paris. Je crois qu'elle se rend pas compte du travail qu'il y a. Oui, voilà, comme tu dis. Ah ouais. Je crois qu'elle se rend pas compte du travail qu'il y a derrière.
Parce que c'est un sacré truc. C'est un.
Oui. Mais ça fait un an qu'elle dit ça, tu vois, enfin un peu moins, mais en fait ça fait un an qu'elle bosse pas pour, tu vois. Donc moi je lui dis, tu sais, je crois pas que ce soit un concours où tu peux y aller au talent. Donc ceci dit, c'est sur dossier, je crois. Enfin c'est sur dossier, mais ça reste sur dossier et la sélection elle est hardcore, quoi. Donc je lui disais, tu peux pas y aller au talent là, il va falloir taffer, quoi. Et bon, pour l'instant.
Bah pour Sciences Po, il y a des prépas.
Après,
il y a des prépas Sciences Po,
voilà,
il y en a qui commencent dès la seconde, par exemple.
Ouais, c'est ça. C'est ce qu'elle me dit, c'est que, en fait, elle va peut-être faire la. En fait, c'était bizarre parce que dans son lycée, il y avait une prépa en seconde pour Sciences Po, qui était dispensée par une prof à Lille, donc. Et en fait, la prépa était réservée aux étudiants boursiers. C'est-à-dire que si t'étais pas étudiant boursier, tu pouvais pas... ouais, c'était étonnant. Tu pouvais pas, et je comprends parce qu'en fait, j'imagine que Sciences Po, il y a un vrai côté, ben, on a envie d'intégrer en fait des gamins qui sont boursiers, etc. Mais si tu veux, elle était là, ben moi je voudrais bien aussi la faire. Ils lui ont dit, ben non, frérot, désolé, t'es pas boursière, donc tu peux pas y accéder. T'es là, bon.
Ah, mais enfin, du coup, je trouve ça dégueulasse aussi. Enfin, en fait, c'est pas.
Bah,
tu fais quoi, du coup?
Bah, on appelle ça la discrimination positive, hein. Après, on est d'accord ou pas avec le concept, hein, tu vois, mais moi, je trouve ça. Moi, perso, je trouve ça cool. Après, tu vois, je crois que.
Bah, enfin, en tout cas, moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça, mais je sais qu'il y a des prépas Sciences Po. Mais il y en a qui se commencent dès la seconde, il y en a qu'on peut commencer en première, il y en a d'autres qu'on peut faire même en terminale, en fait. Mmh. Enfin, on n'est pas forcément non plus obligé de suivre dès la seconde. Et puis aussi, avec Sciences Po, t'as pas que Sciences Po Paris aussi.
Oui. Mais je crois qu'elle veut.
T'as le Havre, t'as...
Son objectif, c'est de venir vivre à Paris avec son papa.
Ah oui. Bah oui. Ouais, alors ça, c'est encore différent.
Et puis tu vois, en même temps, on se dit autre chose, c'est que. Elle a une mère à Lille, un père à Paris. Normalement, tu es capable de pouvoir faire à peu près toutes les filières, sauf si vraiment il y a une école spécifique, tu vois. Tu peux faire à peu près plein de choses entre ces deux villes. Ça serait un peu dommage, sauf si vraiment tu as une école très claire qui est que, je sais pas, à Lyon, tu vois. C'est bien dommage de pas venir vivre chez tes parents d'une manière ou d'une autre, quoi. En termes de budget,
etc. Mais du coup, tu dis pas aussi, en fait, ma fille, là, c'est sa rentrée. Et en fait, après, c'est sa dernière rentrée scolaire. Enfin, ça fait un truc aussi, là. Tu as rentré des classes. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Enfin, OK, non, après, peut-être, voilà, elle sera dans d'autres écoles et tout. Mais quand même,
t'as la
dernière rentrée scolaire.
T'as la rentrée post-bac aussi, qui a un truc, hein, surtout, la première rentrée post-bac.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Mais toi, t'as un peu ça?
Mais en fait, non, oui, moi, j'ai ça aussi parce que je me dis, justement, peut-être qu'après, elle sera barrée, en fait. Elle sera barrée et donc, elle sera plus avec moi, quoi.
Enfin,
une semaine sur deux, mais enfin, je ne l'ai pas tout le temps. Mais quand même, le fait de se dire, en fait, elle vit vraiment. En fait, c'est peut-être plus le fait de me dire, ça se trouve, là, elle va vivre après toute seule, en fait. Parce qu'elle pourrait aussi. Parce que finalement, même là, toi, ta fille, si elle va ni à Paris ni à Lille, c'est une possibilité aussi.
Oui.
Tu dis, bah en fait, ouais, elle va prendre quoi? Elle va prendre un studio, puis elle va être toute seule. Enfin, c'est un truc d'autonomie, quoi.
Trop
qui
bien.
Est là, qui. Franchement, moi, je trouve ça génial.
Moi, dans les deux sens, je suis trop content.
Mais en même temps, ça me fait bizarre, quoi.
Qu'elle ait plus besoin de toi ?
Ouais.
C'est un truc que je retrouve beaucoup plus.
Pardon, j'ai pas compris.
Ah, c'était une question. Est-ce que ça te fait bizarre qu'elle ait plus besoin de toi ? Point d'interrogation ? Ou que bientôt, elle aura plus besoin de toi ? Ah, ma question n'est pas claire du tout, c'est ça ? Ou alors,
ouais, si, ta question est ultra claire. La réponse, je sais pas. Ouais, si. Bah. Non, je serais contente qu'elle soit autonome, en vrai. Vraiment. Après, je suis pas sûre que de toute façon, elle ait genre plus du tout besoin de moi. Enfin.
Ce rire démoniaque.
Le plan financier, sur plein de choses, non. Et puis, sur le reste, je sais pas. Je pense que déjà, déjà, on a une relation qui est telle que. Enfin, non, ça me fait pas peur de pas la voir au quotidien. Non.
Ok.
Mais voilà, malgré tout, le fait de me dire c'est sa dernière année avec prof et enfin non si avec évidemment avec l'école. Et je sais pas pourquoi dans ma tête c'est pas la même chose. Voilà.
Est-ce qu'il y a aussi un côté que à travers ces enfants qui vieillissent, qui grandissent, t'es aussi toi en train de vieillir ?
Ah bah ouais, de me dire que là cette année elle va être majeure et donc. Adulte en fait, enfin adulte, voilà, c'est ça qui, je pense que c'est ça en fait le truc qui me fait vraiment bizarre. Et là, la rentrée, ça déclenche ça. Je sais que cette année, là, qui va venir, elle va avoir ses 18 ans. Et genre, c'est peut-être ça aussi, tu vois, qui me fait un truc.
Ok. C'est enfin, génial. Voilà.
Et effectivement, je le vis pas du tout de la même façon pour mes autres enfants et dont mon petit garçon. Où là, je reste. Et puis, je pense que c'est ça aussi. Tu le vis pas de la même façon quand t'as quand même encore d'autres enfants derrière qui où t'as encore ton vrai rôle de maman. Tiens.
Mon vrai rôle de maman. Je sais pas si t'avais écouté dans l'histoire de Daronne. J'avais interviewé. Alors attends, je vais te retrouver l'épisode. Je vais vous retrouver l'épisode d'ailleurs. J'avais interviewé Muriel qui racontait que en fait, par un concours de circonstances, ces trois gamins s'étaient retrouvés chez elle alors qu'ils avaient genre 25, 27, 23 ou 25, je sais plus, et 20 ans.
Pas mal.
Et en fait, bah, tu sais, avec le Covid et tout, sa fille aînée était revenue. Et en fait, elle s'est rendue compte, Muriel, pas du tout Myriam, n'importe quoi. Elle s'est rendue compte que elle était en train de vivre en coloc avec ses gamins et que elle se retrouvait un peu dans la peau de la daronne qui était en train, comment dire, qui était en train de s'inquiéter si sa fille, elle allait rentrer ou pas alors qu'elle avait 27 ans. Tu vois? Horrible. Et donc, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fini par faire, je ne sais pas si tu as écouté cet épisode, ce qu'elle a fini par faire, c'est qu'elle leur a donné un ultimatum. Mais ça a été super dur pour elle parce qu'elle avait un peu la sensation d'être une mère indigne, en fait, tu vois, en disant à ses enfants, maintenant, il est temps de se barrer. Et en fait, c'est bien aussi parce que le petit dernier qui avait 20 ans et qui était en alternance, je crois, en apprentissage, tu vois, ils ont fini par se démerder avec son frère. Ils ont trouvé une coloc ensemble. Et en fait, il était super content, lui, de se barrer. Et je crois que c'est d'ailleurs le petit dernier qui avait 20 ans et qui avait dit, en fait, maman, tant que tu nous fous pas dehors, nous, on va rester là parce qu'on est au chaud, tu nous fais à bouffer, tu t'occupes de nous et tout. Ça lui avait mis une grosse claque dans la gueule. Elle s'était dit, ouais, ok.
Mais c'est, je trouve ça super qu'elle ait pu faire ça, en fait. Qu'elle ait pu dire, en fait, maintenant, faut que tu partes.
Mais tu vois,
je trouve ça chouette.
Ça l'a renvoyé.
C'est pas évident, parce que, en fait, des relations comme ça de dépendance, et encore sur le Discord d'ailleurs, il y avait ces, je sais plus qui disait qu'elle s'était fait couper les cheveux, que sa mère dit, ah ben non. Tu t'es fait couper les cheveux, et du coup t'es plus vraiment, tu t'enlèves une partie de toi et je l'ai pas décidé, etc.
Wow.
Cette relation comme ça très forte, fusionnelle et de pouvoir absolu sur son enfant et qui est hyper difficile à couper. Et on en voit qui ont 20 ans, 30 ans. Moi, hier, j'avais une collègue qui était en train de pleurer. Une collègue, donc une prof de 40 ans, qui était en train de pleurer parce que elle s'était faite, elle me dit, je viens de me faire engueuler par ma mère. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Et voilà, juste pour dire que oui, la relation, donc qu'une mère puisse couper et dire non, maintenant tu prends vraiment complètement ton autonomie et en fait non, tu ne restes plus à la maison, etc. Je trouve ça très sain.
Ouais.
En fait, voilà.
Bah, t'as bien raison. Mais tu vois, ce qu'elle racontait aussi à la fin de l'épisode, c'est qu'elle avait à la fois ce double truc de oh putain, c'est génial, je vais pouvoir retrouver ma vie de femme, tu vois, et donc de plus être maman à plein temps.
Mais carrément.
Mais surtout, oh putain, ça fait quand même un grand saut dans le vide. Parce que ça fait 30 piges qu'en fait, c'est devenu mon identité. Et je crois que c'est vraiment génial aussi de... C'est pour ça que j'aime bien avoir des daronnes, tu vois, qui ont 50, 55 ans, là, parce qu'elles ont déjà passé ce cap-là et qu'elles sont capables d'en parler. Et c'est vrai que je trouve que c'est un vrai défi dans la vie d'un parent, mais je crois que ça touche d'autant plus les mamans, tu vois, de réussir à ne pas faire de ta parentalité ton identité, quoi. De réussir à avoir d'autres choses dans ta vie. En tant que femme ou homme, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses.
Ah oui, non mais... Ah oui, carrément. Et en même temps, je trouve que t'es maman, tu... ou père, enfin, tu le restes toute ta vie quand même. Enfin, alors pour le coup, là, autant je sais pas, moi ça m'a pas empêché d'avoir ma vie de femme. Et je pense que par exemple, j'ai eu plus ma vie de femme et ma vie et ma casquette de musicienne, de prof, de femme. Et que là, par exemple, en ce moment, je suis juste mère pour plein de raisons. Mais en fait, voilà. Donc en fait, je trouve que ça dépend des moments de ta vie. Je pense que t'as quand même des moments où tes enfants, ils ont vraiment super besoin de toi et que c'est super si t'es là quand même.
Oui.
Et après.
On va pas spoiler ton futur épisode, Mélina.
Non, j'ai rien dit.
Mélina a enregistré.
J'ai rien dit du tout.
Non, c'est juste pour dire, Mélina a enregistré un super épisode d'histoire de Daronne. Vous comprendrez quand elle dit je suis maman pour plein de raisons. Vous comprendrez pourquoi en écoutant l'épisode.
Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais non, mais c'est pour dire vraiment que la vie de femme, et il faut pas. En fait, je trouverais ça dommage. En fait, mon point, c'est de dire, ce serait trop dommage d'être, de redevenir femme juste quand tes enfants sont barrés de chez toi, quoi. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est juste ça. En fait, donc d'être là pour tes enfants quand ils en ont besoin. Et je pense que ça se situe là. Et après, effectivement, quand ils ont 18 ans, il y a quand même un truc qui se passe par la force des choses, ou quand ils vont faire leurs études ailleurs, et quand ils vont justement pour les études, etc. C'est quand même un moment où, en fait, t'es face à ce truc-là. Si tu l'as pas eu avant, bah là, t'es obligé d'y faire face, en fait.
Clairement.
De comment je me situe en tant que mère, en tant que femme, en tant que machin. Voilà. Il y a des choses qui se jouent aussi dans ces rentrées de classe, de tout ça, parce que il y a un truc qui se rejoue, quoi.
Et je sais pas comment tu l'as vécu, toi, Mélina, mais moi, l'un des trucs dont je me suis rendu compte, c'est que, en fait, tes enfants, à partir d'un certain âge, grandissent très vite, je trouve, et ils ont plus besoin de toi. Là où avant, ils étaient encore en mode « Ok, bah en fait, on a besoin de toi, on a besoin de toi pour plein de choses, tu vois. » Je trouve qu'il y a un âge où ça s'accélère en termes d'autonomie, et d'autant plus si tu as des enfants qui veulent avoir cette autonomie-là et que toi, tu es prêt en tant que parent à leur offrir. Et je trouve que le switch, il est, si tu ne l'anticipes pas, il est super dur à faire, parce qu'en fait, à un moment donné, tes enfants finissent par un peu t'obliger à le faire, en fait, globalement. Et si tu n'es pas prêt, c'est d'autant plus dur pour toi, je crois, en tant que parent.
Ouais, mais et c'est là que tu vois aussi que tes enfants, ils sont super différents. Enfin, il y a des enfants super différents. Et je sais pas, toi, ta grande, elle est pas plus à vouloir prendre son autonomie.
Ah, si, de ouf.
Vraiment.
Après, je suis pas sûr qu'elle soit prête à l'assumer totalement, mais ça, c'est autre chose. Je crois qu'elle fantasme pas mal l'autonomie. Après, c'est trop intéressant quand elle fantasme l'autonomie de la remettre face à OK, c'est quoi la vraie autonomie? Si tu étais vraiment autonome, ça, en général, ça coince un peu, mais je trouve que c'est cool comme exercice.
Oui, c'est ça. Mais malgré tout, ils se rendent compte de plein de choses. Après, je pense qu'ils demandent juste à le vivre. Moi, j'ai ça pour ma plus grande aussi, donc celle qui a 17. Et, Et je sens qu'elle est vraiment autonome. Et je sens aussi de plus en plus qu'elle a la maturité pour le faire. C'est-à-dire qu'en fait, elle a toujours voulu être autonome, mais en fait, sur plein de trucs, elle était pas du tout. Et là, c'est là où il y a un vrai changement. C'est que je sens que, ouais, en fait, elle pourrait vivre toute seule et faire ses études toute seule ailleurs et plus du tout avoir besoin. Voilà.
Et ça,
c'est ça. C'est le truc. Mais bon.
Et ça, tu dis bon.
Et tant mieux. Enfin voilà, on en revient à la discussion du début, mais c'est en vrai, tant mieux. Je demande que ça, du moment qu'elle est bien et du moment qu'elle est que c'est sa volonté et qu'elle le vit bien, c'est top quoi.
Trop bien. Et en tant que prof alors, qu'est-ce que ça donne la rentrée?
Eh ben en tant que prof, alors c'est ce que je disais, c'est que en fait Jérémy parlait de sa fille qui était hyper apprêtée avec les ongles et tout à 17 ans. Et effectivement, moi, c'était le cas aussi de ma fille, pareil, maquillée, peinture de guerre, j'adore. C'est exactement ça. Et moi, à chaque fois, et je le constate quand même, franchement, chaque année, les élèves, mais même en sixième, cinquième, ils sont sur leur 31, en fait, le jour de la rentrée. Tu les vois jamais aussi bien habillés que le jour de la rentrée, en fait. C'est vraiment... c'est comme si c'était... la première impression est super importante. Et en même temps, on le sait, parce que même en tant que prof, là, par exemple, demain, je fais ma rentrée devant les élèves. Je sais pas encore ce que je vais mettre, mais en vrai, je vais réfléchir parce que je sais que, en fait, t'es scanné. Mais vraiment, hein, t'es scanné, genre, ils te décodent, mais tout, quoi. De la tête aux pieds. Et tu sais que t'es scanné. Et tout le monde fait ça. Et donc, t'as un stress comme ça de rentrer juste parce que, particulièrement la première fois, tu vas passer au scan, quoi.
Incroyable.
Voilà. Donc c'est sûr. Et après, même si tu fais une entre guillemets bonne impression, en vrai, de toute façon, après, il suffit pas juste de la première fois. Hein. Bien sûr, tu te fais de toute façon scanner tout le temps, et pour les élèves c'est pareil, mais la première impression ça reste quelque chose. Et je pense que même sans l'analyser, on le sent en fait. C'est aussi pour ça que les élèves, et notamment à partir du collège, ils sont stressés aussi. Et ils se posent la question de comment je vais m'habiller et voilà, comment je vais être et qu'est-ce que je vais dire et la question de l'apparence, et ça a beaucoup... On en a parlé aussi sur le Discord ou je sais plus, mais la question de l'apparence est évidemment très important aussi, quoi. Ça c'est clair. Et au collège, au lycée, on peut pas l'éviter, quoi. Vraiment, c'est quoi, ça va déterminer. En fait, ça peut déterminer plein de choses. Et pour un élève, pour un adolescent, pas seulement élève, juste ado avec les autres. Si le premier jour t'es fiché pour quelque raison que ce soit, en fait il y a des choses qui se louent dès le premier jour.
Ouais, tu m'étonnes.
Donc c'est hyper anxiogène en fait pour les ados. Voilà.
Et donc même pour toi en tant que prof, c'est hyper anxiogène en termes d'apparence.
Et même pour nous en tant que prof. Alors en même temps par rapport à ça, j'ai une anecdote plutôt, enfin. Un truc un peu rigolo parce que j'ai travaillé à l'étranger aussi. Et notamment, j'étais à Dubaï avant.
Ouais.
Et à Dubaï, comment dire que l'apparence, c'est un truc qui compte beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et effectivement, je reconnais, je pense que j'ai pris l'habitude de prendre particulièrement soin de mon apparence. Et donc, le premier jour de la rentrée ne serait... Alors, je parle même pas des élèves, mais même chez les profs, c'était un défilé de mode. Mais le truc... Et donc, tout le monde sortait sa plus belle robe et machin et truc. Mais c'était... Et puis, opération séduction pour tout le monde, les trucs. Enfin, c'était un truc de dingue.
Incroyable.
Et donc, je suis revenue en France, là, il y a 3 ans. Et le premier jour de la rentrée, je pense que j'étais encore un peu dans ce mood-là. Et donc, je viens avec ma petite robe, mes petites chaussures, mon petit vernis et tout. Et je débarque en salle des profs de banlieue parisienne, d'un collège. Où effectivement, c'était limite chaussettes claquettes. Et là, tu dis, ah, ok. Bon, en fait,
pas le même mood.
Okay, j'ai compris, les gars. Ok, je vais changer, c'est bon.
Pas du tout le même mood, donc.
Non, pas du tout. Donc voilà, donc on s'adapte, hein. Voilà. Et on s'adapte aussi pour les jours de rentrée, et puis voilà.
Tu m'étonnes. T'as des souvenirs de quand tes mômes étaient plus petits, là? Et notamment de ta première rentrée, de leur première rentrée, de la première rentrée de ta fille?
Alors, par rapport à ça, en fait, pour le coup, pour tout ce qui est vestimentaire, c'était plus facile, et notamment à Dubaï, puisqu'il y a l'uniforme.
Ouais. Ils étaient déjà à Dubaï?
Donc,
t'étais déjà à Dubaï avec tes enfants quand ils étaient petits?
Ah non, alors tout petit.
Ouais. Genre les tout premiers souvenirs de rentrée,
petit,
tu vois.
Mes filles, on était en Italie, mais leur première rentrée, ça s'est pas fait en France et c'était en Italie. Et l'Italie à Milan, c'est aussi la mode en fait. Hein. Et en Italie, justement, voici, anecdote de rentrée pour mes filles toutes petites. J'ai Merelle, ma deuxième, qui est rentrée en petite section. Et elle regardait entre filles, elle regardait la couleur de leur culotte. Et donc, c'était la team rose. Et donc, il y avait le groupe des culottes roses. Et c'est véridique. Hein. Et donc, t'avais...
Wow.
Et donc voilà, t'avais la couleur de la petite culotte. Et le jour de la rentrée où elle s'était déjà donné des codes de société intéressante, n'est-ce pas, par la suite.
Par rapport voilà. À la couleur de la culotte.
Par rapport à la couleur de la culotte, bah oui, voilà, elles étaient, c'était team
Italie,
culotte rose, et donc elle m'a fait chier pour que je lui achète toute une panoplie de culottes roses, et voilà. Et en même temps, c'était effectivement Milan, c'était très
oui.
Dans la mode. Tout le monde faisait aussi beaucoup attention à son apparence. Et ça se voyait donc dès tout petit, dès la maternelle. Et c'est terrible quand tu y penses. C'est terrible. C'est code de société dès que tu es toute petite. Toute petite. Et là, je parle surtout aussi pour les filles. Enfin, voilà quoi. J'ai lu Ovidie pendant les vacances. Je suis.
Ça t'a remonté, ça. J'ai lu Ovidie pendant les vacances, dis donc. Ça m'a hein, remonté comme un coucou. Qu'est-ce qu'elle raconte, Ovidie, là-dedans?
Non, mais bon, voilà. C'est vraiment. Je suis d'autant plus remontée que, justement, j'ai pu voir, j'ai pu assister à des extrêmes, si tu veux. Des extrêmes de modèles de patriarcat, mais des trucs dingues, quoi. Et donc oui, et tu vois, et je relis ça à la rentrée parce que on est quand même toujours dans ce système de séduction, etc. Et dès tout petit, et dès la rentrée, c'est un truc de dingue. Voilà.
Ok. Qu'est-ce qu'elle raconte, Ovidie? Pourquoi ça t'a remonté comme ça?
Ah non, mais là c'est plus trop le sujet de la rentrée des classes là, du coup, parce que c'est plus sur les relations homme-femme. Ovidie, en fait, j'ai lu son dernier livre qui s'appelle La chair est triste, hélas.
Oui.
Ça parle. Je sais pas si tu l'as lu.
Non, pas du tout, mais ça parle de relations amoureuses hétéro, c'est ça? Ou pas du tout?
Pas vraiment, non.
À côté de la plaque.
Enfin,
okay, d'accord, pardon.
Enfin. Oui et non, c'est-à-dire que Ovidie, elle est bi, je crois. Enfin, on s'en fout, peu importe. Mais c'est surtout que elle a commencé à faire une grève du sexe depuis 3 ans.
Ah oui.
Et
ça
en
y est,
gros,
j'en ai.
Voilà.
Ok.
Elle explique pourquoi.
Okay.
Et en fait, c'est juste que en soi, elle fait ce qu'elle veut, etc. Mais c'est juste que son analyse. Du rapport homme-femme est quand même super intéressante. Et notamment, même dans la société et ce système de séduction qui est là. Mmh. Et c'est quand même assez pertinent, assez intéressant, je trouvais. Voilà.
C'est pour ça que tu faisais le lien avec ta fille et la rentrée des classes, ou avec la culotte rose de ta fille. C'est ça.
Ouais, les culottes roses. Bah oui, oui, oui. Enfin, et puis non, mais puis le fait d'être. Non, mais même pas forcément sur les culottes roses, mais d'une manière générale, le fait d'être d'être très apprêté pour séduire. Parce que la séduction, c'est la chose à acquérir comme une compétence dans la vie, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un peu ce que disait Ovidie, quoi, dans le genre ta cote à l'Argus sur la baisabilité. Et en fait, ça s'apprend très jeune sur le côté séduction, etc. Mmh. Voilà, c'est en gros, c'est ce qu'elle dit. Et en fait, c'est quand même un système qui alimente beaucoup ça.
Ouais, j'imagine. Je vois de quoi tu parles. Et en plus, quand t'as des filles, c'est encore un autre délire. Hein.
Ouais. Oui, oui, c'est sûr.
Et toi, en tant que femme, j'imagine.
Même, je pense que même si j'avais pas eu de fille, je pense que c'est quand même une réflexion à avoir. Et je trouve ça intéressant de l'avoir.
Tu crois que.
Homme comme femme, comme ado fille, comme ado mec. C'est une réflexion
j'entends bien.
À avoir, quoi.
C'est juste que, historiquement, dans les darons que j'ai rencontrés, je me suis rendu compte à quel point les pères qui avaient des filles était beaucoup plus ouvert, et c'est dramatique, mais c'est le jeu, aux problèmes du féminisme que les darons qui avaient que des mecs. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas forcément... Ils n'ont pas ce miroir, en fait, alors qu'ils l'ont peut-être sur d'autres femmes de leur entourage, sur leur femme, par exemple, sur leur compagnon, etc. Mais apparemment, il faut avoir la chair de ta chair pour que ça finisse par rentrer chez les mecs, et je le comprends en plus, parce que je crois que même moi je l'ai vécu comme ça, quoi. Il y avait un vrai truc de ah ouais, mais donc en fait ta fille elle est vraiment en train de naître dans un pays nul.
T'as quand même un principe d'empathie d'un coup qui rentre en jeu, quoi, en fait.
Oui.
Qu'on t'apprend pas spécialement avant, en fait, tout simplement. Non, je sais pas.
En tant qu'homme, non. C'est pas forcément
en tant qu'homme par rapport aux femmes, ce truc de te mettre à la place d'eux, dans de véritable empathie, d'essayer de comprendre. Voilà, c'est un exercice qu'on t'apprend pas à faire avant, mais c'est pas un reproche, enfin, c'est le système, quoi, toi, qui est comme ça. C'est...
Non, j'entends bien. Ça n'a a priori rien à voir avec la rentrée, mais quand même, parce que l'air de rien, l'école est aussi une grande est un lieu de construction aussi sociale pour les enfants, et il y a énormément de Il y a énormément de choses qui se jouent, en fait, notamment en termes de stéréotypes, etc. Je me souviens que moi, ça m'avait vraiment fait marrer parce que y a ma fille, je crois qu'elle devait être en maternelle, et c'est carnaval. Trop bien. Et je dis à ma fille, super, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse comme costume? Peut-être qu'on va te l'acheter, etc., etc. Elle me dit, je vais me déguiser en princesse. Je suis là, super, à quoi ça sert qu'on se fasse chier à vraiment t'expliquer que les stéréotypes de genre, etc. Non, je vais être en princesse. Bon, en même temps, elle a 3 ans, tu vois, on comprend. T'as envie d'être en princesse. 3 ans, 4 ans, je sais plus. Et en fait, on se pointe le matin du carnaval. Toutes les filles étaient en princesse. Et les mecs, ils étaient déguisés, mais ils avaient plein de trucs. Ils étaient déguisés en chevaliers, il y avait des super-héros, il y avait des sportifs, il y avait de tout, en fait. Et les meufs, elles étaient toutes déguisées en princesse en rose.
Ouais, mais t'exagères, Fab, franchement. Enfin, je veux dire, attends, c'est bon, quoi. T'as le choix dans les princesses. T'en as plein, des princesses. C'est génial, attends.
Eh bien, pas à l'époque.
Non, mais voilà. Non, mais évidemment.
Aujourd'hui, je dis pas. Franchement, Disney, ils se sont renouvelés dans leurs princesses. Non, mais c'est vrai. Ils ont des princesses beaucoup plus cool, Disney, qu'il y a encore 15 ans.
T'as au moins le choix entre une petite dizaine de princesses, c'est génial.
Et des princesses, non, mais des princesses cool.
Non, mais c'est blague à part, franchement, c'est clair. C'est... Alors, d'un coup, je pense à un truc, c'est que donc mon petit garçon vient d'avoir 9 ans, là, il y a 3 jours.
Oui.
Et pour son anniversaire, sa grande sœur, donc celle qui vient de rentrer en terminale, ouais. Lui dit, qu'est-ce que tu veux et tout, et lui répond, en fait, moi je veux du vernis à ongles.
Ok, cool. Et alors
donc, le vernis à ongles, super. Et donc il dit, super, tout, tu veux quelle couleur? Je veux du bleu, donc ok, je vais te faire les ongles. Et pour la rentrée, ouais, bah écoute, alors.
Et ça t'a fait quoi, toi?
Et t'es en fait, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là?
T'étais hyper OP avec l'idée ou ça, tu vois?
Alors en fait, bah alors, bah, du coup,
je te sens un peu...
du coup, moi, ce que je lui ai dit, c'est, écoute, je trouve ça super. Effectivement, c'est joli, les ongles bleus. T'as bien raison. Enfin, ou bleu ou n'importe quelle couleur derrière, peu importe. Mais pourquoi pas? Alors, j'ai esquivé le truc en disant que les filles, quand elles étaient petites, elles n'avaient pas le droit d'avoir. On n'a pas le droit d'avoir du vernis à ongles à l'école, ce qui est vrai. Ouais. Normalement, en primaire, t'as pas le droit d'avoir du vernis à ongles.
Oui.
Et après, j'ai dit, mais après, tu fais ça à la maison, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que, en fait, si tu fais ça à l'école, moi, je trouve ça génial. Enfin, j'ai pas de problème avec. Simplement,
c'est dur.
C'est quelque chose qui, malheureusement, est quand même très genré. C'est-à-dire que, et alors, donc, je lui explique le genre, machin. Donc,
wow.
C'est quand même classé. Donc, même si on est en 2023, je lui ai pas dit ça, mais je le pensais, tu vas avoir quand même des personnes qui vont te dire, ah, mais ça, c'est pour les filles. Donc, tu assumes, mais il faut quand même que tu saches qu'il va y avoir des personnes qui vont te dire ça. Est-ce que tu sais quoi leur répondre? Est-ce que tu sais ce que tu vas leur dire, quoi? C'est juste ça. Et après, tu peux juste dire, ah ben, moi, je trouve ça joli et j'aime bien, et voilà. Mais non plus dire.
Il a dit quoi?
Si tu lui dis juste, ouais, c'est cool, vas-y. Enfin,
ouais, il a dit
ton
quoi?
Ton enfant, il va se faire lyncher par les autres. Et donc, il faut trouver un truc quand même, quoi.
Ok, il a répondu quoi quand tu lui as dit ça?
Il a dit, bah, je leur dirais que moi, j'aime bien et que moi, ça me fait plaisir de porter du vernis à ongles. Je suis pas, oui.
Good job. Il y a tout un, j'en parle dans le Fab et Mimi Show, là, dans l'épisode. Il y a le bouquin de Panayotis Pasco qui est sorti fin août, qui est incroyable. Et il a toute une partie, parce qu'en fait, c'est des petits textes, en fait, à chaque fois. Il a toute une partie sur le fait qu'il décide de se faire poser du vernis rouge en plus par la chérie de son frère, tu vois. Et en fait, il dit que il le fait un peu par défi par rapport à son daron. Et c'est trop, trop intéressant. Parce qu'en fait, il dit...
Mais j'ai entendu. C'est pas là où tu parlais de à la fin, quand son daron arrive sur scène et que du coup, il part et que t'avais deux interprétations différentes
tout à
et
fait.
Tout ça, c'est pas ça?
Tout à fait. Bah, ça, c'est dans son spectacle. Mais dans son livre, il parle en particulier d'un moment où il parle du vernis à ongles. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvé une fois, on revient à l'école, on était dans une super OP avec MAC Cosmétiques chez Mademoiselle. Et ils étaient venus pour maquiller toute l'équipe. Et moi, je me suis retrouvé avec à me faire maquiller, mais un maquillage de ouf, hein, vraiment. J'étais highlighté de ma boule. Il m'avait mis un rouge à lèvres de taré. C'était incroyable. Franchement, j'avais une dégaine de ouf.
Et tu t'es senti comment, en vrai? Enfin, je veux dire, ça t'a fait quoi? Tu t'es trouvé beau, moi?
J'étais au top. Ah oui, bien sûr. En fait, il faut les photos. Tu dis Chanty, mais j'aimerais bien. Je sais qu'il y a des photos, mais je n'ai jamais pensé à les récupérer. C'est dramatique. En revanche, je crois que j'ai une vidéo. En revanche, je me suis dit, ok, bah, c'était vendredi, genre midi après-midi. Et souvent, le vendredi après-midi, je rentre à Lille. Et donc, je me suis dit, let's go, tu te démaquilles pas, tu fais tout le voyage jusqu'à Lille et tu vas chercher ta fille. Donc, c'était Kim à l'époque, ma cadette, à l'école, comme ça.
Elle avait quel âge?
Elle était genre CE2, CM1, un truc comme ça, je crois. Écoute, elle m'a vu.
Elle t'a pas reconnu.
En fait, c'est pas ça, c'est qu'elle m'a vu, je l'ai filmée, et en fait, je suis un peu triste parce que j'ai pas réussi à la filmer très correctement, mais il y a juste un moment, et je n'ai jamais vu autant de honte dans ses yeux. Vraiment, elle a baissé les yeux sur le trottoir, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il fout là comme ça?
Mais tu vois, c'est pour ça que je t'ai demandé l'âge qu'elle avait, parce qu'effectivement, ça dépend de, je pense que c'est une question d'âge. Si elle avait eu 5-6 ans, je pense qu'elle aurait pas réagi comme ça, en fait.
Bien sûr, là, c'était déjà trop tard.
C'est déjà trop tard, en fait. Putain, mais c'est dingue, quoi, quand même.
Mais après, je crois qu'elle m'avait jamais
vu. Après, peut-être que juste t'avais une sale gueule. Enfin, pardon, hein, mais.
Non. Franchement. T'imagines ce visage-là, avec ce crâne-là, tu vois, highlighté de ouf. Franchement, les maquilleurs, ils étaient là. J'adore parce que vraiment, j'ai jamais eu autant de matière à poser. J'étais là, bah oui, bien sûr. C'est... bien sûr. Highlighté l'intégralité de cette tête-là. Franchement, c'est du kiff pour n'importe quel maquilleur ou n'importe quelle maquilleuse, quoi. Donc
ouais. Alors, pour ça me fait penser à un truc, c'est que pour en revenir à la rentrée des classes, je suis au collège, mais je travaille aussi au lycée.
Ouais.
Et au lycée, c'est quand même, mais pas du tout la même ambiance. Et je pense que c'est une question de public, parce que c'est pas vraiment non plus le même public, mais il y a beaucoup, enfin beaucoup par rapport à, je pense, même il y a encore 10 ou 20 ans, mais de mecs qui assument mais total le fait que qu'ils soient
gays ou c'est ça
en fait. Ils assument leur sexualité sans aucun problème,
leur orientation sexuelle,
et les filles pareil ils assument bien plus leur tenue vestimentaire que même quand ils sont au collège. Ils s'affirment bien plus, quoi.
Ça se débloque.
Et donc le mec qui va être en kilt, en vrai, je pense que même pas. Enfin, il va rien se passer, en fait. Mm-hmm. Il est là, bah ça fait triper d'être en kilt, bah il vient en kilt, en fait, et c'est tout.
La classe.
Et c'est cool. Et puis il y a rien qui, enfin voilà, j'ai le kilt, c'est je dis ça parce que ça s'est vraiment passé.
Ouais.
Mais il y a une ouverture, enfin tu viens, t'as les cheveux roses, t'as les cheveux bleus, t'es un mec, t'as des ongles, effectivement il y a une ouverture, c'est aussi dû au public, hein, du lycée, hein.
Oui,
mais
est-ce que c'est pas un public,
je pense qu'il y a une question d'âge et puis il y a une question de temps aussi. En 2023, je veux dire, moi je pense que ça aurait été impensable il y a encore 20 ans, quand même.
Oui, clairement. Clairement, il y a Pistachio Note qui dit au lycée ça peut passer, mais je crois surtout en ville parce que dans ma campagne elle est pas très sûre. Et je suis assez d'accord aussi avec l'idée.
C'est clair. Non, je suis d'accord.
Il y a un vrai truc par rapport à ça, quoi. Clairement.
Ouais, c'est sûr. Voilà.
Ok. Les administrations scolaires font pas très souvent chier les mecs. Ah oui. Tu veux dire qu'ils font plutôt chier les meufs. En tout cas, moi, ma fille, elle se faisait. Elle se faisait sans arrêt reprendre parce qu'elle avait une robe trop décolletée ou un machin trop court, etc. Quoi. C'était horrible. Pas de soucis.
Et d'ailleurs, petite parenthèse juste pour la rentrée.
Oui.
C'est hyper dur aussi, je trouve, pour les parents là, avec je sais pas si ça vous fait ça aussi à vous, sur des enfants plus jeunes. Donc là, on n'est plus dans les ados et tout, mais plus primaire. Quand les enfants ont l'habitude de se coucher à pas d'heure et que d'un coup c'est la rentrée et que en plus ils sont stressés et que le soir pour les remettre au lit à 9h, c'est juste l'horreur, en fait.
Voilà. Bah oui.
Je sais pas s'il y en a qui se reconnaîtront, qui se diront oui, c'est vrai, c'est super galère, surtout quand il fait 39 degrés dans l'appart et que juste tu t'en peux plus, et voilà.
Et ce qui est chaud aussi, c'est de retrouver le rythme, je trouve. Là, tu vois, ma fille me disait j'ai eu 4 heures de cours, mais je suis éclatée. Alors que d'habitude, j'en ai 8, tu vois, le mardi. Là, j'ai eu 4 heures, j'étais dead. C'est chaud, hein.
Ah, mais c'est...
Faut reprendre le rythme,
c'est
quoi.
Clair. Oui, et puis parce que aussi, je pense que tes 4 heures, t'es dead, d'une part par rapport aux cours, mais aussi parce que t'investis beaucoup d'énergie, même par rapport aux autres. Mm. Parce que t'investis dans ta relation, tu vas avec la relation aux autres, etc.
Bah ouais,
et
grave.
En fait, tu vas faire des efforts qui après, t'y vas, t'es cool, quoi. Tu vois, t'as l'habitude de voir les autres et tout, mais au début, tu vas vachement plus te prendre la tête, en fait, pour savoir, ok, alors qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que là, ça c'était bien? Tu te mets dans un stress qui est crevant, en fait, aussi.
Tu m'étonnes. Et c'est bizarre parce qu'en tant qu'adulte, après, ça va beaucoup mieux. Non ou pas? J'en sais rien. Enfin, toi, en même temps, t'es prof. Donc, c'est différent.
Moi, autour de moi, de tous les profs que je connais, je le connais un petit peu quand même, je n'en connais pas un seul qui soit pas stressé par la rentrée.
Ouais, mais en même temps, en tant que prof, désolé, mais vous avez un peu choisi cette vie de rentrée permanente, en fait. C'est-à-dire que ta vie, c'est une tu ne quittes jamais la le système de rentrée de l'école, etc. Quoi. C'est un truc de ouf, hein, quand même.
Ouais.
Non, mais c'est vrai. Bah, mais c'est fou, quand même. Vous êtes les seules personnes pour qui c'est a thing, quoi, tu vois, la rentrée en dehors du fait que tu as des enfants, etc. Quoi.
Ah ouais, mais c'est mon fils me disait ça. Il me dit, mais ça veut dire que de là, tu as des sixièmes. Je dis, bah oui, j'ai des sixièmes. Il me dit, ah d'accord, ah, mais dans 2 ans, tu auras encore des sixièmes. Je dis, bah oui. Il me dit, ah ouais.
Et dans 10 ans aussi.
Et dans 10 ans, oui. Je dis, Et en fait, là, tu dis, non, mais en fait, arrête là, c'est déprimant là.
Mais c'est vrai, hein, c'est un truc de ouf quand même quand on y pense. Vous êtes la seule profession comme ça qui fait ça. Et effectivement, bah c'est Monsieur le Prof, là, je ne sais pas si tu as suivi son actualité, qui sort un bouquin qui recense un petit peu la vie des profs, la vraie vie des profs, avec plein de témoignages. Si vous n'avez jamais entendu son épisode d'Histoire de succès, je ne sais pas si tu l'écoutais, Mélina, mais c'est vraiment génial.
Non.
Parce que ce mec a décidé de prendre la parole pour tous les profs, en fait, tu vois. Et là, maintenant, il a décidé de démissionner parce qu'il n'en peut plus. Il est au bout du rôle. Et il démissionne un peu, avec un peu un sentiment d'échec, tu vois, par rapport à tous les trucs qu'il n'a pas pu faire, parce qu'il est juste là en train de dire, bah, en fait, moi, cette administration, je peux plus vivre dedans, en fait, c'est fini. Et ça fait 12 ans, je crois, qu'il est prof.
Ben, je comprends.
Donc c'est ultra dur.
Si ça vous fait combien de temps qu'il était prof?
12 ans.
12, ouais.
Et prof d'anglais. Et ouais, c'est... Ouais. C'est hardcore et si t'as pas écouté son épisode d'Histoire de succès, là, je t'invite à aller le faire. C'est vraiment trop cool.
Carrément, il
Il a genre 400 000 followers sur Twitter. Enfin, il a vraiment servi de porte-parole à plein de profs, en fait. Donc, c'est plutôt cool. Et il a aussi ouvert la voie parce qu'il n'y avait pas trop de profs qui prenaient la parole à l'époque. Et Pistache Note, qui est donc prof, j'imagine, dit il est vraiment cool, William Lafleur. Voilà, monsieur l'ex-prof, parce qu'effectivement, il va se lancer dans une carrière d'auteur, là. Et je suis sûr qu'il va cartonner parce que le mec est brillant, quoi. Ah, il est vraiment cool, l'épisode.
Ah, bah,
super. Il y a Pistache Note qui dit qu'il est cool, mon épisode. Je suis très heureux. Il avait l'air d'être content.
Ouais, je vais écouter l'épisode, mais en vrai, je comprends parce que, je vois différentes catégories autour de moi de profs, des profs d'un certain âge, je parle. T'as ceux qui restent passionnés toute leur vie et qui y croient toute leur vie et qui et c'est génial. Ouais. Mais c'est évidemment pas la totalité des profs.
Ça doit être dur. Hein.
T'en as qui deviennent aigris. Et chiant et con, voilà. parce que en fait, à un moment donné, ils rentrent dans une routine et puis qu'effectivement, ils sont pas bien payés, que c'est pas très valorisant de moins en moins et que bah du coup ils attendent juste la fin de leurs heures et puis c'est pas avec un grand intérêt.
Ouais.
Et puis t'en as aussi qui changent de métier, effectivement.
Bah
et
ouais.
qui vont pas pouvoir faire grand chose et que
ça en revanche je suis pas d'accord avec toi.
Qui ont envie du coup de se battre pour une autre cause, quoi.
Tu vois, je suis pas d'accord avec toi parce que j'ai vraiment l'impression que les profs ont plein de skills cachés qui sont pas du tout valorisés au sein de l'institution et notamment
donc on est d'accord.
Tellement de choses que tu sais faire en tant que prof et que qui peuvent te servir après dans ta vie, dans une vie en entreprise. Mais effectivement, la reconversion est galère. Et d'autant plus que, comme le dit Oupal dans le chat, les ruptures conventionnelles sont refusées. Donc, pas de reconversion possible. Et la rupture conventionnelle de William, justement, a été refusée. Donc, ça aussi, c'est un délire. Hein. C'est vraiment... J'ai été en couple pendant quasiment un an avec une prof. Là, j'ai découvert à quel point c'était la... En fait, l'éducation nationale est pour moi le pire employeur toxique que j'ai jamais entendu, quoi. C'est vraiment horrible.
On est d'accord.
Bah oui. Bref.
Bah oui, non, mais on est d'accord. Mais justement, évidemment, qu'il y a. Je vois des profs autour de moi qui ont plein de talents qu'ils peuvent pas exploiter, et parce que aussi, mais c'est tout un système. Enfin, c'est compliqué. Moi, ce qui me, je t'avouerais que ce qui me dérange de plus en plus, c'est le fait qu'on ait trop peu de moyens. Ouais, quand oui. On voit qu'on pourrait avoir des solutions pour les élèves, et notamment les élèves en difficulté, les élèves et en plus, on a maintenant beaucoup de connaissances sur beaucoup d'élèves, enfin des élèves à besoins spécifiques, et quels que soient les besoins, et on sait maintenant beaucoup plus de choses. Et en neurosciences, on a fait plein de choses, on a quand même encore du mal. Enfin, on sait ce qu'on devrait faire. Et en fait, les moyens qu'on a dans l'éducation nationale font que tu peux pas les mettre en place, en fait. Et c'est ultra frustrant. Voilà. Et donc il y a plein. On a à chaque fois, à chaque début d'année, justement, pendant la rentrée, des fiches. Et on sait, tel élève a des troubles 10, telle chose et telle chose. Et puis, en fait, en tant que prof, t'essayes quand même de faire au mieux. Et tu te dis, c'est génial, ça, on pourrait faire ça comme ci, on pourrait faire ça comme ça. Mais en même temps, quand t'as 29 élèves, fois, je sais pas combien quand t'es au collège. On ne peut pas avoir même cette qualité d'écoute de l'élève. On n'a pas le temps et on n'a pas les moyens. La qualité pédagogique qu'on pourrait avoir s'il y avait moins d'élèves par classe, etc. Je vois là, je suis dans une école européenne. Ils sont entre 10 et 15 par classe.
Ouais.
Et en fait, évidemment que là, on fait du particulier, on se base en fait de l'élève, on part de l'élève, et puis c'est vraiment le truc, quoi, c'est qu'on parle des capacités de l'élève, de l'univers de l'élève, pour enrichir ses connaissances, pour enrichir ses compétences, et on peut faire ça. Alors que dans le système français, c'est telle et telle et telle compétence qu'il faut acquérir.
Ouais.
Et c'est comme ça.
C'est incroyable.
Et donc, en fait, c'est pas la même philosophie. Mais on ne peut pas faire autrement, en fait, vu les moyens qu'on a. Mmh. Voilà. Bon, c'était mon petit coup de gueule, mais après...
Merci, Mélina.
T'en prie.
Je te laisse retourner à ton fiston. Sylvain, t'es là ?
Salut, tu m'entends ?
Ouais.
Je suis là, je sais pas si j'ai grand-chose à dire, mais je suis là.
Ouais, t'as un enfant ?
J'ai un enfant.
t'as déjà vécu une rentrée avec ton enfant ?
Ah, pas tout à fait, parce que le système est pas tout à fait pareil en Autriche. C'est pour ça que.
Bah, raconte-nous.
Je suis un peu. Lui, il va avoir 5 ans, donc c'est la maternelle. Et la maternelle en Autriche ou en Allemagne, c'est ce qu'ils appellent le jardin d'enfants. Donc c'est pas une école.
Le kindergarten. C'est ça ?
Ouais. Donc c'était pas une école, ils s'amusent des après-midi en jouant, mais il n'y a pas de programme, il n'y a rien du tout. Donc en gros, ça ressemble plus à une crèche, mais pour enfants plus grands. Donc lui, il est dans un groupe, il a commencé l'année dernière à 3 ans, et il est dans un groupe où il est avec des enfants mélangés de 3 à 6 ans, et il reste avec les mêmes enfants tout au long de ces 3 années en maternelle. Et donc au niveau du rythme aussi, il n'y a pas de vacances, il y a juste là. En fonction des maternelles, ils font une fermeture annuelle, et nous, on a une fermeture 3 semaines l'été.
Ok.
Et après, c'est fini. Donc, en gros, là, il y a eu 3 semaines de fermeture et on l'a remis tout de suite après. Et il y a juste après un Noël où parfois il y a un service minimum, mais sinon, c'est c'est relativement cool. Donc c'est pour ça que en termes de rentrée des classes, pour l'instant, c'est pas encore trop une question, voilà.
Mmh. Ok, je comprends. Et alors?
Mais vas-y.
Bah non, mais j'allais dire. Et alors, mais malgré tout, comment ton enfant vit enfin, je sais pas, cette période un peu bizarre. Ils s'en rendent compte ou pas après les vacances?
Bah là, il a repris mi-août.
Ouais.
Et alors c'est là, c'est intéressant parce que en fait, bah il y a les enfants qui partent en primaire. Bah là, ils sont en train de partir. Donc un à un, ils vont partir. Et il y a les nouveaux enfants qui ont 3 ans et qui vont être là pour les 3 prochaines années qui arrivent. Et donc il y a le temps d'adaptation des nouveaux enfants. Il y en a d'autres qui partent. Et bah lui, il a vécu ça l'année dernière en tant que nouvel enfant. Ouais. Et maintenant, bah là, il est dedans depuis 1 an, donc il y a aucun problème. Et là, pour lui, c'était un peu spécial cette année parce que il a été son meilleur ami. C'était un enfant justement qui partait en primaire cette année. Et donc, bah là, il vient de partir. Et donc, il va se retrouver. Il a pas, il passait son temps quasiment exclusif avec lui. Et là, il vient de partir, donc bah, il va se retrouver avec d'autres enfants et il va grandir. Et du coup, c'est ça qui est bien aussi avec les groupes mélangés, c'est qu'au bah, départ, il est petit et il se retrouve avec des enfants plus grands. Et bah, là, petit à petit, il va grandir et c'est lui qui va se retrouver avec des enfants plus petits. Et donc, t'apprends à jouer avec différents enfants et différents niveaux de développement, en fait.
C'est trop intéressant, hein.
Ouais.
C'est la crèche étendue, quoi.
C'est ça. Donc, bah, a priori, ça se passe bien là. Bah, c'était bizarre d'ailleurs parce que il avait une relation amour-haine avec cet autre enfant en fait. Donc, ils jouaient tout le temps ensemble, mais parfois ils se tapaient dessus et ça se passait pas bien. Et j'avoue que je suis un peu content que l'autre enfant soit parti parce que parfois il revenait avec des coups et parfois il me disait même mais moi j'ai pas envie de jouer avec lui mais il vient quand même me voir et il veut pas me lâcher et après tu sais pas quel crédit tu dois donner à ton enfant quand il te dit ça. Donc j'avais essayé d'en parler avec les gens de la maternelle mais ils disaient que ça allait mais c'est sûr que quand t'entends ça tu te dis bon est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon et
c'est chaud hein.
Ouais.
Comment tu vivais le fait que ton gamin il se faisait cogner dessus à l'école dès la maternelle quoi, l'équivalent de la maternelle. What the fuck.
Bah ce qui était un peu, enfin oui, on essayait de lui expliquer ce qu'il faut, comment réagir de manière correcte, donc pas de se battre ou de répondre par les coups, mais d'essayer de se défendre au minimum s'il se tapait ou d'aller voir un adulte pour faire en sorte que ça se passe pas. Mais ça revenait régulièrement, c'est même arrivé l'année dernière plusieurs fois où il revenait de la maternelle en disant ah aujourd'hui il m'a pas tapé.
C'est chaud quand même.
Et pourtant il s'adorait donc voilà, c'était un peu nocif et c'est sûr que moi je le visais pas très bien et aussi on essaie de faire en sorte que de l'éduquer dans un système où il n'y a pas la violence et quand tu l'envoies à la maternelle et qu'il voit ça comme exemple et qu'il revient à la maison et qu'il te tape, tu fais bon.
C'est un peu l'enfer, c'est les autres, quoi. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment l'apprentissage de la vie en accéléré, quoi. En l'espace de quelques mois, c'est terrible, quoi. C'est Ludo là, ouais, qui disait un peu plus haut, genre on les fait rentrer comme des parfaits petits gamins éduqués, non genrés, etc. Et en fait, ils reviennent en disant le bleu c'est pour les garçons, le rose c'est pour les filles. Oh merde, ouais, bah, ce travail est foutu en l'air.
C'est un peu ça, mais bon. Après, c'est marrant parce que le vernis à ongles, justement, l'année dernière, il y avait ma copine, sa mère qui en mettait, et donc il a dit ah, moi aussi j'en veux, et du coup je lui en ai acheté pour enfant.
Trop bien.
Et du coup bah on en mettait à la maison. Après c'est pour enfant, donc ça s'en va à l'eau, donc dès qu'il se lave les mains forcément ça s'en va. Mais du coup la dernière fois c'était marrant parce que il parlait de, je sais plus pourquoi il parlait de choses qui étaient pour les filles, pour les garçons, et du coup il y a sa mère qui lui demande le vernis à ongles, du coup, et il a dit oh non c'est pour les garçons et pour les filles.
Bien joué.
Donc il y a des choses qui peuvent marcher. Après c'est effectivement ce que vous disiez avec Mélina, c'est une fois qu'ils sont confrontés à l'école avec le regard des autres, comment ils vont gérer ça, quoi. Et Ouais. J'avais lu un livre là-dessus d'ailleurs. Enfin, j'avais lu dans un chapitre d'un livre que, bah, effectivement, les enfants sont obligés de se, bah, de vivre leurs propres expériences justement sociétales par rapport à ça, et que, bah, parfois, ils sont capables de gérer et d'aller un peu contre le courant, et parfois, bah, ils lâchent l'affaire et puis ils suivent le courant. Voilà.
C'est, ouais. Il y a Maven qui dit, j'en ai parlé il y a quelques mois, de ma tristesse d'entendre ma fille refuser de regarder la Justice League en dessin animé parce qu'il n'y avait que Wonder Woman sur la couverture et que des héros mecs. Donc pour elle, c'était pas un dessin animé pour filles. Putain. Bien sûr. En même temps, tu peux pas en vouloir à ta fille, tu vois. Elle voit bien que c'est pas représentatif, alors elle dit, bah non, en fait, c'est pour les garçons, donc c'est ça. C'est terrible. Pistachonette qui dit, je suis obligé d'imposer qu'ils fassent des îlots, des groupes de 4 tables ou de 3 filles ou 3 ou 4 enfants, mixtes. Sinon, j'ai les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Ouais, alors moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Quand ma fille était en primaire, j'adorais la conduire le matin. Et en fait, ce que je faisais, en primaire, non, en maternelle, j'adorais la conduire le matin. Et en fait, ce que j'adorais faire, c'était faire un petit dessin. Et en fait, c'était devenu un truc pour elle. Elle était là à chaque fois. Papa, fais-moi un dessin, etc. Et en fait, un jour, sa prof me dit non, mais en fait, vous voulez pas laisser. Parce qu'en gros, il y avait plein d'enfants qui venaient pour regarder mon dessin, parce que je dessine à merveille. Elle me demandait, fais-moi une licorne. J'étais là, oui, pas de problème, je vais te dessiner une licorne, bouge pas. Comme ça, tu vois. Et donc, il y avait plein de gamins qui venaient. Et en fait, je crois que je foutais un peu le bordel pour la prof. Et la prof va la voir et lui dit « Lina, si tu veux, tu peux aller jouer là-bas avec les filles. » Et en fait, les filles avaient une cuisine. Il y avait genre une dinette et tout. Et en fait, toutes les filles étaient en train de jouer à la dinette et les garçons, ils étaient en train de faire des dessins. Je lui ai dit à la meuf « Bah non, en fait, elle a envie qu'on fasse un dessin ensemble. Pourquoi faire ça ?» Voilà. Et on s'est un peu embrouillax. Voilà.
Ouais, bah, j'ai l'impression, là, dans sa maternelle, il y a souvent des groupes et j'ai l'impression qu'il ne joue pas beaucoup avec les filles, ou parfois, ça doit lui arriver, mais plus souvent avec des garçons.
Bah ouais.
Et la dernière fois, justement, il m'a sorti par rapport au dessin animé. Il m'a dit, ah, ce dessin animé-là, c'est pas pour les garçons, c'est pour les filles. Et je lui dis, déjà, je ne connaissais pas le dessin animé, lui, il ne le connaissait pas non plus. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Et donc, il me dit, ah, bah, c'est parce que elle le regarde. Et, du coup, je lui ai dit, bah, avant de décider si c'est pour les filles ou pour les garçons, tu peux peut-être le regarder, le dessin animé, avant de décider. Et c'est ce qui est très drôle, en plus, c'est que l'un des seuls dessins animés qu'il regarde, je pense que c'est clairement plus orienté filles. Mais, comme il n'en parle pas à la maternelle ou qu'il le sait pas, en fait, ça lui pose pas de problème. Donc, c'est toujours marrant de voir un peu ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressortent, et après de les confronter par rapport à ça.
La sociabilisation, c'est terrible. Hein.
Ouais.
Parce que finalement, on n'est que ça, hein. On n'est que des putains d'animaux grégaires, quoi. C'est terrible. Ok. Bah, trop bien. Comment t'appréhendes la rentrée au collège, etc. Comment, je ne sais même pas comment ça se passe en.
Bah,
peut-être déjà, il y a la primaire. Il y a peut-être la primaire.
Oui, il y a
qui est quand même un gros truc.
Bah, je ne sais pas. Si, c'est un avantage peut-être de vivre à l'étranger, mais je ne connais pas grand-chose du
tout.
Donc, j'ai un peu moins d'appréhension peut-être. Je ne sais pas trop quoi penser. Je voulais justement partager sur le chat. Ils ont un truc que je trouve pas mal ici, c'est qu'il y a qu'ils appellent un Schultüte. C'est un espèce de gros cornet avec des bonbons ou des petits jouets qu'ils ont à la rentrée des classes en primaire. Donc ça peut peut-être les aider justement à mieux aborder cette étape de la rentrée. Je pourrais partager un lien. C'est un truc que du coup on fera dans quelques années. Après l'arrivée en école, je sais pas exactement. Je sais pas pourquoi, mais enfin si je le sais en partie, mais j'ai pas forcément de bons souvenirs de l'école, enfin du système éducatif français. Et donc, j'espère que le système éducatif autrichien aujourd'hui, parce que de toute façon, c'était il y a 30 ans que j'étais à l'école, donc j'espère que ça a évolué, on va dire, dans le bon sens.
Bah oui.
Ou vers des choses qui me conviennent un peu plus. Mais du coup, c'est plus ça que je redoute, en fait, c'est que de se retrouver sur un système un peu d'antan, comme nous, on a pu le vivre.
Et, ouais, mais tu sais.
Ouais. Je trouvais que c'était très épanouissant, en fait.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, je vois vraiment les nouvelles profs et les nouveaux profs. Alors, je dis nouvelles parce qu'il y a beaucoup de femmes. Mais il y avait énormément de profs, de profs des écoles et de profs dans la communauté Mademoiselle. Et donc, j'en ai rencontré pas mal. Et donc, notamment en Spistationnet, si je me trompe pas. Voilà. Et je trouve vraiment qu'il y a un truc assez dingue dans la nouvelle génération de jeunes profs qui prend en compte, tu vois, ce genre de truc là où effectivement, la prof de ma fille, là, donc, que je racontais tout à l'heure, elle avait genre 60 balais, quoi, tu vois, elle était vraiment en fin de carrière. Tu sens vraiment que c'est les trucs à l'ancienne et que, bah, j'ai un peu l'impression que chez les jeunes, en tout cas, il y a vraiment un truc qui a bougé par rapport à ça, quoi. Et donc, c'est plutôt cool.
Ouais, bah, j'espère. Mais c'est vrai que pour l'instant, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Et l'autre truc que j'appréhende, c'est le système en Autriche fait que, en fait, ils finissent l'école vers 13h ou 14h. Donc il n'y a pas le mercredi de libre comme on peut avoir en France, mais c'est un système comme ils ont voulu le mettre en place où on terminait plus tôt et on met en place des activités dans l'après-midi. Et du coup, je me pose plus des questions au niveau organisation, comment on va pouvoir le gérer l'après-midi. parce que forcément.
Il y a quoi? Il y a du sport en club, etc. C'est ça?
Bah, normalement, il y a des enfants qui rentrent à la maison. Ouais. Genre, ma copine, c'est ce qu'elle faisait, elle rentrait vers 14h et elle restait toute seule avec sa sœur toute l'après-midi. Donc, ça, c'est loin d'être idéal, à mon avis. Après, apparemment, il y a des moyens de les mettre dans des groupes d'activités jusqu'à 16h, 17h. Donc, normalement, effectivement, il doit y avoir des choses mises en place, mais je suis pas encore trop au courant, donc, du coup, je redoute un peu, mais... A priori, ils sont pas complètement arriérés, donc ils ont dû prévoir le truc. Mais...
Oui. Voilà. Il y a quand même un peu de la rigueur allemande chez les Autrichiens.
ouais, ils se ressemblent. Ils se ressemblent pas mal. Mais, par rapport à l'éducation, moi, je me souviens, et je trouve ça aberrant quand j'y pense, je sais plus quand c'était en CM1, je crois. On s'était retrouvé toute l'année, on n'a pas fait de sport. On a dû avoir une ou deux séances de sport parce que la prof qu'on avait, elle aimait pas le sport et parce que je sais pas, il y avait pas les moyens ou je sais pas quoi. Et du coup, on n'a pas fait de sport de l'année, en fait.
Incroyable. Et
je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas eu de plainte ou de choses. Enfin, ça a été accepté apparemment et voilà, c'est le genre de choses que je préférerais éviter à mon enfant. Mais j'imagine que ça a évolué dans le bon sens.
Oui. Et puis, en fait, tu vois, moi, l'un des trucs dont je me rends compte, c'est que, en fait, tes enfants, ils passent par des trucs qui peuvent les foutre en difficulté. Et un peu comme nous, en fait, tu vois, ils finissent par en faire une force, quoi, si t'arrives bien à les accompagner correctement, quoi. C'est du...
Oui.
Voilà. Et je trouve que pour ça, l'école, même si effectivement, il y a tout un aspect de sociabilisation et tout qui est à la fois génial et en même temps compliqué par plein d'autres aspects, bah, c'est chouette parce que ça les incite un petit peu à aller vivre dans le monde, quoi, tu vois. Après avoir été dans le cocon, bon, même si, je sais pas trop s'il y a un système de crèche en Autriche, mais la crèche, c'est un délire aussi, quoi.
Si, il y a des crèches. Elles commencent plus tard, mais il y a un système de crèche qui fonctionne assez bien et qui est moins cher d'ailleurs que le système français. C'est pas plus mal. Mais ce qui me perturbe un peu encore, mais je comprends l'approche, c'est que dans le système allemand ou le système autrichien, ou dans la société, l'enfant est beaucoup plus central, en fait. Donc dans la famille, c'est pour ça que on se retrouve. C'est pour eux, c'est complètement normal que les parents viennent chercher les enfants au milieu d'après-midi ou le midi ou qu'ils aillent, qu'il y ait la maman souvent qui soit à mi-temps, ou qu'il y ait la grand-mère qui soit là pour aller chercher les enfants. Et du coup, c'est beaucoup plus tourné vers l'enfant et le bien-être de l'enfant. Mmh. Et donc, alors qu'en France, le rythme a été clairement adapté pour que les deux parents puissent travailler. Donc, je pense que les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients. C'est juste que parfois, c'est un peu déroutant quand moi, j'ai grandi dans un système différent et que je me retrouve nous, je pense qu'on est quasiment les seuls parents là à la maternelle qui devons après la maternelle, donc on va le chercher avant 17h, qui devons appeler une babysitter deux ou trois fois par semaine parce que on travaille tous les deux à plein temps, et ça c'est presque pas le cas de la plupart des familles en fait.
Et vous culpabilisez ou ça va?
Parfois, t'as un peu l'impression d'être le mauvais parent, quoi. On est les derniers à aller chercher notre enfant, et puis on n'est pas forcément disponible. Donc tu te dis, je pourrais. C'est plus moi qui me dis, en fait, je pourrais faire plus. Mais en fait, ça dépend de la base de comparaison. Si je comparais avec la France, je me dirais, non, en fait, c'est très bien. Mais c'est pas ce que j'ai comme base de comparaison directe, en fait. Donc voilà.
C'est fou.
Mais bon, c'est intéressant de voir les différents systèmes et de toute façon, il y a pas d'endroit qui est parfait. C'est juste des fonctionnements différents et il faut s'adapter.
Tout à fait.
Voilà.
Merci Sylvain.
De rien.
Trop cool. Merci d'être passé dans le chat.
Ça fait plaisir. J'essaierai de passer jeudi, mais je suis de passage en France chez un ami, donc je sais pas si.
Oui. Viens donc.
Ouais.
Si vous l'avez jamais entendu, ça te dérange pas que je mette le lien dans l'épisode.
Non, vas-y.
Si vous avez jamais entendu Sylvain, on parle ensemble de sa vie de papa avec. Au sommaire, un burn-out parental et une expatriation. Et également de la thérapie, parce qu'à la fin, il faut toujours une sorte de silver lining quand même, quoi, tu vois. Et
ça.
Merci beaucoup, Sylvain, c'est chouette.
Merci à toi. Bonne fin de soirée.
Merci beaucoup.
Bonne fin de soirée à tous.
À plus.
Ciao.
RDV jeudi soir, on se retrouve et on va faire parler les mecs de thérapie. Et en fait, donc dimanche 10... vous pouvez noter aussi, on parlera d'argent et on va parler tous ensemble de votre vie riche. Je vous souhaite une belle journée. Demain matin sort un super épisode dans Histoire de Mec que je vous invite à aller écouter. J'ai interviewé Manu Kos, qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle Bien trop petit, qui a été le bouquin qui s'est fait interdire au moins de 18 ans par Gérald Darmanin, alors que c'est un bouquin jeunesse, en plein milieu de l'été. Parce que Gérald Darmanin considère que dedans, il y a du contenu pornographique MDR. Et on discute tous ensemble de comment il a vécu ce truc-là, qui est en plus trop cool pour lui. Il a mis une sorte d'énorme coup de projecteur sur le livre. Et ce bouquin est génial, je l'ai lu. C'est vraiment extraordinaire. C'est affilé à tous vos garçons, à tous les garçons que vous avez autour de vous qui ont genre 15 ans. C'est vraiment trop cool. Et donc demain, dans Histoire de Mec, il y a Manu.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.